Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurie Plisson,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ce qui est génial avec le théâtre, c'est que tout y est possible, même de se jouer des époques et de faire dialoguer deux des plus grands dramaturges européens, le soviétique Mikhaïl Bulgakov et le français Molière, tout juste débarqué du XVIIe siècle. Louis XIV est là, La Fontaine et Boileau également, la censure aussi, avec son visage qui change tout le temps mais qui reste au fond le même. Le temps d'un spectacle baroque et foisonnant, cette rencontre improbable mais ô combien signifiante nous raconte la création et la liberté artistique face au pouvoir. Elle montre aussi, s'il en était besoin, à quel point, par-delà les siècles, l'esprit de Molière continue de souffler pour le rire et pour le meilleur sur la troupe de sa maison, la Comédie Française. Le Crépuscule des singes est à découvrir au Théâtre du Vieux Colombier à Paris. C'est jusqu'au 10 juillet et vous m'en direz des nouvelles. Monsieur de Molière, Nicolas Chupin, bonjour.
Bonjour.
Camarade Pierre-Louis Calixte Bulgakov, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Louise Vigneault. Merci d'être avec nous tous les trois. Vous êtes la co-autrice, Louise Vigneault, et la metteuse en scène de cette pièce qui est créée, faut-il le rappeler, en pleine saison Molière, pour les 400 ans de Jean-Baptiste Poquelin, et dans sa maison, la Comédie Française. Pourquoi raconter Molière par l'entremise de Bulgakov?
C'est une bonne question. Je crois que c'est venu de la volonté de parler de Molière, et notamment parce que en lisant toutes ces pièces, finalement, ce qui me fascinait, c'était l'homme qui se racontait derrière, à travers ses écrits. Je sentais que il parlait de lui, il parlait de son monde, il parlait de tout ça, et c'était sa personne qui m'intéressait de plus en plus. Donc en cherchant,
vous auriez pu faire une pièce biographique, mais là c'était pas très original.
Et puis surtout, en fait, je crois que c'était pas ce que je cherchais non plus, c'est-à-dire que ce qui était intéressant, ce qui me plaisait dans ces pièces, dans ce qui se raconte, c'était son humanité. Et donc, arriver à rendre compte de ça. Or, la biographie donne des détails historiques et oblige aussi un rapport au spectateur dans une conscience historique des choses, et je crois coince le rapport à la fiction. Or, là, ce qui m'intéressait, c'était de raconter l'humain, donc de raconter la fiction, et donc d'aller chercher au-delà. Et en cherchant des biographies, et notamment celle qu'a écrit Mikhaïl Bulgakov, qui s'appelle « Le roman de Monsieur de Molière », voilà, il y avait quelque chose où à la fois ça parlait de Molière, et puis ça parlait de lui, et je me suis dit, en fait, tous les auteurs se racontent à travers leurs textes, et ce qui va être intéressant, c'est finalement de les faire se rencontrer, et de parler de l'un et de l'autre, et de parler, au fond, de ce qui les a animés toute leur vie, c'est-à-dire l'écriture, l'art et puis le rapport au pouvoir.
Il fallait donc écrire une pièce nouvelle qui mêle donc ces deux auteurs, Molière et Bulgakov. Et pour ce faire, vous êtes tourné vers Alison Cosson, qui avait déjà travaillé avec vous sur l'adaptation d'un roman de Goliarda Sapienza. Il fallait être deux pour mélanger deux auteurs, deux œuvres et deux époques.
Oui, c'est ça, au moins. Oui, en fait, surtout, je crois que moi, je ne suis pas autrice au sens où je n'écris pas des mots. Je suis metteuse en scène et je crois que j'invente des histoires et des récits. Et j'aime les inventer pour le plateau. Donc je crois que c'était plutôt l'idée d'avoir une collaboration de mots, d'avoir une collaboration d'esprit, pour à la fois pouvoir inventer une histoire et l'inventer pour le plateau et la travailler avec les comédiens sur le plateau et avec eux, mais avoir aussi une autrice dont c'est le métier de traduire les choses en mots pour avoir cette traduction-là. Donc je dirais que ça a été une écriture à plein de mains, puisqu'il y avait et la mienne dans l'invention, et celle d'Alison dans l'invention et les mots, et Molière, puisqu'il y a des extraits des pièces de Molière, oui. Et Bulgakov, parce qu'il y a des extraits des livres de Bulgakov. Donc il y avait un peu comme ça ce mélange d'esprit.
Et donc le fait de se rencontrer Molière et Bulgakov malgré les siècles d'écart, c'est ce que le texte fait, hein. Ça se passe à la lueur d'une bougie, à la première rencontre un peu entre chien et loup. Et c'est vous qui incarnez Bulgakov, Pierre-Louis Calixte. Lorsque la pièce débute, dans quel état d'esprit est-il ?
Il y a une petite compression historique. Lorsque la pièce débute, en fait, il est déjà historiquement un peu mis à mal. Mais là, pour que ça tienne aussi dans une pièce, Voilà, en fait, dès la première scène, en fait, on lui interdit d'éditer ses textes. Sa pièce est retirée de l'affiche et on lui retire aussi tous ses livres.
Dans la bibliothèque, plus de Bulgakov, plus de spectacle de Bulgakov. Il y a une vraie tension dramatique qui monte dès la première scène, parce que ce commissaire du Politburo qu'ils appellent Voroshilov et qui est incarné par Thierry Ancis, au départ, il ne dit pas tellement les choses. Et puis, petit à petit, on sent qu'il y a de plus en plus de non-dits, et il y a tout de suite donc une tension dramatique qui monte, et vous le ressentez, d'ailleurs vous faites ressentir notamment à travers les traits de votre visage.
Mais ce qui est très beau, c'est que je trouve dans le travail qu'on a mené sur ce texte, particulièrement sur cette scène, je trouve, c'est la complexité de Vorotchilov, c'est-à-dire qu'il aime vraiment l'écriture de Bulgakov, et que lui-même est tenu d'appliquer les ordres qui viennent d'en haut. C'est toujours la question du pouvoir.
Il le fait à contre-cœur.
Oui, et c'est ce qui donne, je trouve, à la scène tout son... Parce qu'on n'a pas d'un côté un méchant censeur et puis un pauvre auteur. On a une complexité humaine. À quel point, dans nos rapports au pouvoir, on exerce, et particulièrement aujourd'hui, où tout le monde se note, on est victime du pouvoir, mais on l'exerce aussi. On peut mettre une étoile au lieu de trois étoiles au livreur qui nous livre. Ce rapport-là au pouvoir, je trouve très très fort, et très fort parce qu'il est complexe. Voilà.
Et donc Vorotchilov, une fois annoncé les mauvaises nouvelles pour Bulgakov, quitte donc la pièce. Bulgakov est évidemment au désespoir, il s'en ouvre à son épouse, et puis soudain c'est toute une bande de joyeux drilles en provenance directe du XVIIe siècle qui débarque dans l'appartement russe d'un Bulgakov qui donc commence à désespérer son avenir. Il y a Chapelle, joué par Gilles David, il y a Boileau, joué par Christian Gonon, il y a La Fontaine, joué par Clarina Clavaron, avec leurs pourpoints, leurs hautes chausses, leurs souliers à talons très, très grand siècle, sorti tout droit, j'imagine, des réserves de la Comédie française.
Ah non, créé pour l'occasion.
Créé pour l'occasion, ouais, hein, carrément. Ouais, ah oui, ouais. C'est important de le préciser, effectivement, juste avant que Molière, en personne, ne fasse lui aussi son entrée dans la pièce.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Oh, Molière, nous t'avons dérangé ?
Pardon, Molière, nous sommes fatigués de ce monde, nous choisissons de passer dans l'autre.
Notre vie nous est insupportable.
Adieu, Molière, pour toujours, nous allons nous noyer. Notre ami vient avec nous.
C'est un beau projet. Mais il me semble que vous m'avez oublié, je ne pensais plus chier par amitié.
Oui, il a raison.
Oh, nous nous sommes vraiment conduits comme des animaux.
Oh, pardon, Molière, viens noyer avec nous.
Oui, allons-y tous ensemble. Très bien, allons-y. Mais vous savez, mes amis, nous devrions nous y prendre mieux. C'est la deuxième plus grande affaire de notre vie, nous ne pouvons pas démériter.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je veux dire qu'il n'est pas bon d'aller se noyer la nuit après la fête. Les gens diront que nous l'avons fait dans les vapeurs de l'alcool. Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Non, 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 non. Allons plutôt nous coucher, dormons jusqu'au matin, et sur le coup de 9h, quand nous serons bien à jeun et que nous aurons repris un aspect convenable, nous irons au fleuve, la tête haute, afin que tout le monde voit que nous nous sommes noyés en véritable philosophe.
Molière, je partage complètement ton avis.
Oh, admirable idée.
Jean-Hage, il a toujours beaucoup plus d'esprit que nous. Bon, allons nous coucher alors. Déjà, je dors. Vous permettez?
Qu'est-ce qu'elle a? Oui, mais qu'est-ce qu'elle a d'autre? Ma petite chanson. Qu'est-ce qu'elle a?
Mais qu'est-ce qu'elle a d'autre? Ma petite chanson.
Bon, alors on parlait de la tension qui montait au fur et à mesure de la première scène. Là, pour le coup, vraiment, le contraste est étonnant. Louise Vigneault, on se demande d'ailleurs si on n'est pas dans le rêve ou dans l'hallucination. Comment vous avez travaillé justement avec vos comédiens leur entrée en scène à ce moment-là?
L'idée était de ne pas jouer le rêve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit qu'on joue le rêve, on s'embarque dans une fausse piste. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans un rêve, c'est qu'on se retrouve toujours dans un endroit sans l'avoir prévu, mais que c'est tout à fait normal. Et c'est ce rapport à la normalité anormale qui nous intéressait. Et de voir comment, en effet, d'un seul coup, parce que l'esprit le veut, parce que c'est comme ça, parce que c'est là, en effet, le 17e peut rentrer sur le plateau. Et ça sera comme ça, et on se laisse embarquer, et on ne se pose pas de questions. Et ça ouvre des perspectives, c'est-à-dire qu'en gros, je crois que ça raconte la création, l'acte de création, cet endroit où tout est possible.
Alors, et c'est vous qui incarnez donc Jean-Baptiste Poquelin, Nicolas Chupin, incarnez Molière dans sa maison, incarner Molière dans la Comédie française, c'est plutôt pas mal comme premier rôle pour le nouveau pensionnaire que vous êtes, non?
Bah, c'est tranquille, c'est apaisant.
Oui, j'imagine.
Moi, je me sens très calme.
Mais grosse pression ou pas? Énorme. Parce que, énorme pression. C'est pas n'importe quel personnage, Molière, quand on est comédien. Et a fortiori, quand on est comédien et pensionnaire de la Comédie française.
Voilà, et quand on vient jouer son tout premier spectacle, ça fait beaucoup.
Bon, pourquoi c'est tombé sur vous, d'ailleurs? On vous l'a expliqué. C'est une sorte de bizutage.
On pourrait penser ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup pensé.
Bon, en même temps, vous n'êtes pas un petit nouveau, quand même. Vous avez quelques rôles à votre compteur, quand même. Mais est-ce que vous avez ressenti, quand vous êtes entré à la Comédie française, que cet esprit de Molière-là souffle réellement dans les couloirs, mais aussi dans les esprits, dans les têtes, dans la façon de fonctionner de la troupe?
Oui, moi, je trouve que c'est un lieu quand même plutôt chargé d'histoire, d'émotion. Et on sent bien que quand on rentre dans ces salles-là, que ce soit à Richelieu ou au Vieux-Co, que voilà, il y a... Et c'est chargé, comme on dit. Il y a du monde est passé par là, et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut assurer quand on arrive. Donc vous avez cette petite responsabilité. Donc en fait, effectivement, c'est très angoissant, mais en même temps très excitant aussi. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir et j'ai été très bien accueilli par mes copains, mes camarades.
Mais comment est-ce que vous nous résumeriez l'esprit de Molière? Vous avez 40 secondes.
Bonne chance à tous. Comment je résumerais ça? Bah, je résumerais ça à l'esprit de troupe. À cet homme-là qui était comme un capitaine de bateau qui tenait la barre, qui faisait en sorte que c'était... On parle beaucoup dans la pièce de questions de survie.
Oui.
C'est très important, ça, parce que d'abord, premièrement, c'était une question de survie pour manger, simplement. Il fallait jouer pour faire nourrir cette troupe. Et puis, oui, l'esprit de troupe, jouer, raconter des histoires et faire face à ces critiques, à cette censure, et tout avec toutes ces failles de l'être humain qui était Molière, parce que c'était pas... Il y a la figure de Molière, mais Molière, avant tout, c'était un homme, c'est ce que racontait aussi Louise, avec ses failles, sa parano. Et tout ça.
Avec la relation avec ses femmes aussi, oui, en particulièrement des Madeleines et Madeleine Béchard. Hein, c'est plus que survolé dans la pièce, quand même. Ouais. C'est un élément important de la dramaturgie. Et dans la pièce, d'une façon générale, et dans la scène dont on a écouté un extrait à l'instant, donc avec Molière et ses amis qui surgissent comme ça dans l'époque de Bulgakov, on est tout de suite impressionné, je le disais, par les costumes, par les coiffures aussi des personnages. C'est très important parce que finalement, ces coiffures et ces costumes permettent aux différents protagonistes de passer d'une époque à l'autre. Louise Vigneault, comment vous avez travaillé avec les costumiers, les accessoiristes aussi, pour justement gérer cette question de la double chronologie?
On se dit que l'anachronisme, au lieu d'être un problème, allait être notre force. C'est-à-dire qu'en jouant sur les différents thèmes, différentes logiques, on pourrait tout se permettre. De même, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois dans cette pièce, il y avait la vision, enfin Molière passe par Bulgakov, et Molière et Bulgakov passent par nous aussi. Donc il y avait aussi ce dialogue entre les différentes époques. Donc après, ce qui était, voilà, je crois qu'il fallait, par exemple, pour les trois Zulu-Berlu là, qui arrivent et qui débarquent et qui ont donc leur pourpoint, mais qui ont aussi des figures, un peu des cheveux un peu particuliers. Oui. Il n'était pas question de faire des perruques 17e, d'historiciser tout ça, mais au contraire, de raconter ce que dit Nicolas, mais l'humain, et de raconter qui ils étaient dans leur siècle. Or, moi, je crois qu'ils étaient un peu des punks pour leur époque. Ils étaient insolents. Ils avaient un rapport au pouvoir très particulier. Ils savaient où ils étaient, ils savaient en jouer et s'en défaire et s'amuser de ça. Et en même temps, on raconte toujours, enfin c'est dans la biographie, mais Molière, quand il allait mal, il allait boire des coups et il se bourrait la gueule avec ses amis et puis il remettait le monde en question jusqu'à pas d'heure. Et en fait, ça vient aussi de ça. Comment on arrive à raconter ça? Et dans les costumes, c'est un peu ce qu'on s'est amusé à faire. C'est-à-dire, non seulement, évidemment, travailler un fantasme du 17e, avec des beaux tissus, avec les pourpoints, avec tout ça, ça fait théâtre, il y a les chemises blanches, enfin, on joue de ça, et en même temps, on le décale, et dans la manière de le porter, dans la manière de le transgresser, on raconte aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on raconte des corps contemporains. Voilà. Et je crois que c'était un peu ça enfin, je suis même sûre, c'est ça qu'on a essayé de travailler.
Below these clothes made up. devilish night to a place where we all know we won't ever need a fight. Well, if the devil sets me free, long live the devil. And if the good becomes the bad, long live the evil.
The Devil sur RFI, chanson du groupe Moriarty, inspirée par Le Maître et Marguerite, un monument de la littérature mondiale signé Bulgakov. Vous l'avez lu, Pierre-Louis Calixte ?
Oui, je l'ai lu. J'ai été frappé par le souffle de cette œuvre-là, et particulièrement par le fait que, justement, c'est une œuvre qui commence à écrire lorsqu'il est interdit de tout. C'est un peu son roman de survie, sa planche de survie, sa planche de salut. Et je trouve ça extraordinaire lorsque, face à une réalité qui lui devient invivable, cette force-là qu'il développe dans l'imaginaire, et particulièrement dans l'imaginaire fantastique. Quand on ne peut plus parler de la réalité, alors on peut en parler dans un geste artistique, mais d'une puissance extraordinaire, parce que c'est quand même soufflant de lire Le Maître et Marguerite, le fantastique qui s'en dégage, et en même temps de parler que du monde dans lequel il est, mais avec cette étincelle fantastique. Je trouve ça prodigieux, acte de résistance.
Quand on incarne un auteur, un dramaturge comme Bulgakov sur une scène de théâtre, pour entrer dans le personnage, son œuvre est aussi importante que son histoire à lui, que sa biographie.
Ce qui est intéressant, je trouve, oui, son œuvre est aussi importante que sa vie, c'est vrai. Ce qui m'a touché, en tout cas, c'est en quoi on pouvait parler avec Bulgakov de la résistance. De la résistance, de comment faire pour survivre lorsque toutes les portes, a priori, se ferment. Et je trouve que c'est juste exceptionnel, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur sa biographie, mais en quoi, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, quand on est acteur, et je crois que tu nous as beaucoup engagés à travailler là-dessus, en quoi, en fait, ce qui est important, c'est le lien entre Bulgakov et moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me raconte aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il me raconte de notre monde aujourd'hui? On sait bien que la culture est en danger. On sait bien que la censure, il y a diverses manières de l'exercer. Et que donc voilà, je pense que ça peut nous parler aussi d'aujourd'hui.
Alors c'est vrai que c'est important, ça, ce que dit Pierre-Louis Calixte, Louise Vigneault, notamment on le voit à travers les personnages joués par Thierry Ancis, qui incarnent finalement au fil des années et au fil des siècles les différents visages de la censure. Et c'est vrai, hein, il le disait à l'instant, elle peut être très protéiforme, cette censure. Donc Ancis, c'est le censeur en chef, en quelque sorte, qui incarne donc des rôles très différents, avec des costumes très différents, sous lesquels se cache avec plus ou moins de subtilité la figure du censeur. Un seul comédien pour incarner ces différents visages-là, c'était indispensable. Ça, dès le départ, vous aviez cette idée-là en tête ?
Oui, tout de suite. L'idée, c'était vraiment d'avoir une traversée du rapport au pouvoir. Donc comment, en fait, il peut se décliner de différentes façons à travers les différents statuts, je dirais, différentes personnes. Et évidemment, on a Staline et Louis XIV qui sont à part. Mais oui. Après, il y a tous les, je dirais, les sous-fifres. Et que ça soit des représentants de ce pouvoir-là, que ça soit les lobbying, comme l'archevêque avec Louis XIV, mais c'est un peu cet équivalent-là, que ça soit la mort, que ça soit... Voilà, c'est vraiment comment en fait, le pouvoir s'exprime de différentes manières et agit de différentes façons avec les artistes et puis au-delà des artistes avec les gens.
Voilà, un exemple de la pièce avec un nouvel extrait, donc c'est Bulgakov, donc interprété, on l'a compris, par Pierre-Louis Calixte, avec une nouvelle fois face à lui Thierry Ancis.
Sortez de là.
Lâchez-moi ! Je suis protégé par le secrétaire général !
Vous êtes sur la liste des ennemis du peuple !
Comment ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Mes journaux ! On vient seulement de me les restituer !
Nous les prenons !
Vous ne pouvez pas !
Nous ne pouvons pas ! Nous pouvons tout, camarades ! Bon, parlons sérieusement.
Mais qui êtes-vous ?
Vous avez écrit. La plume de l'écrivain se mue imperceptiblement en satire. Vous reconnaissez non avoir porté atteinte à l'intégrité de votre gouvernement.
Je n'ai jamais voulu porter atteinte à qui que ce soit. On a fabriqué contre moi un objet anti-révolution, mais je ne me suis intéressé pour ma part qu'à la littérature.
Vous affirmez avoir été victime d'un complot à votre encontre. Mon pauvre.
Je n'ai pas dit ça. J'ai seulement dit que les critiques avaient jeté sur moi un soupçon qui me suit maintenant depuis 15 ans.
Un soupçon, mais ensuite.
Les conséquences pour moi ont été énormes.
Vous pensez donc que le pouvoir a tort de protéger ses intérêts ?
Je n'ai jamais dit ça.
Thierry Ancis et Pierre-Louis Calixte de la Comédie-Française sur la scène du théâtre du Vieux Colombier dans Le Crépuscule des Singes. Pas très à l'aise, hein, Bulgakov, dans cet extrait, Pierre-Louis Calixte. Il se liquéfie un petit peu, hein, effectivement. En plus, il est dans la salle de bain, je crois, en ce moment.
Oui. Déjà, ça commence à aller mal parce qu'il commence à avoir des visions. La réalité devenant tellement agressive, il commence à avoir des fantômes. Et ce qui est beau, en tout cas moi, ce que j'imagine, c'est que c'est aussi des projections en quoi le rêve, ces cauchemars se matérialisent dans la réalité. Ces rencontres impossibles qu'on organise au théâtre entre Molière et Bulgakov, en quoi aussi le théâtre nous permet d'incarner nos pires cauchemars. Ouais, alors c'est pas Freddy, c'est
avec justement ces différents visages de la censure qu'on évoquait, hein, qui sont tous le visage finalement d'un seul comédien, Thierry Ancis, qui joue aussi Madame de Rambouillet. Alors Madame de Rambouillet, c'est l'une des figures de la censure qui va faire face à Molière. Alors c'est une scène qui se passe à l'issue d'une représentation des Précieuses Ridicules, puisque à un moment donné du spectacle, sur le plateau du Vieux Colombier, il y a la loge, hein, le backstage, comme on dit aujourd'hui, d'un spectacle de Molière. Et c'est juste après les Précieuses Ridicules. C'est sans doute un des moments les plus drôles du spectacle, puisque à l'issue de cette représentation, donc c'est ce que raconte la pièce, hein, une des spectatrices s'est sentie visée. Il s'agit de cette Madame de Rambouillet. Et quand le rideau tombe, eh bien, elle vient se plaindre en coulisses et elle vient menacer l'auteur. Molière essaie tant bien que mal de la détromper.
Mais c'est que vous avez une telle influence, madame. Votre réputation va bien au-delà de Paris. Il est arrivé à mes oreilles que des provinciales, ayant éventé des merveilles de vos salons, ont entrepris de les imiter, d'en prendre la couleur et la fonction avec bien moins d'intelligence que vous.
Oui, on dit partout que vous avez rendu le bleu à la mode.
Il est vrai que j'ai pu en inspirer quelques-unes.
Mais oui! Et ce sont ces imitatrices que j'ai moi-même tenté de représenter, voulant montrer à tous que n'est pas Madame de Rambouillet qui veut. Et Madeleine, qui est ici, a pris son rôle très à cœur, voilà tout.
Il est pourtant clairvoyant dans votre pièce que ces Précieuses viennent de Paris.
Elles viennent tout juste de s'y installer. Ce n'était pas clair, j'y remédierai.
Et qu'il ait fait référence plusieurs fois à mes avis.
Bien sûr, mais vos avis sur comment dire les vers, c'est formidable. Nous voulions les honorer.
Il me semblait plutôt que vous me railliez et la salle riait bien fort.
Vous savez, il est parfois difficile d'être bien entendu et parfois les gens rient de ceux qui ne comprennent pas, mais oui, oui, je corrigerai la confusion.
Ainsi, vous corrigerez tout ce qui me déplaît.
Bien sûr. Et vous viendrez vous en assurer avec quelques-uns de vos amis.
Alors c'est drôle évidemment parce qu'elle est habillée, il est habillé en femme, Thierry Ancis, il a une certaine prestance, on va dire que le personnage physiquement est un peu en contraste avec les personnages masculins qu'il incarne par ailleurs. C'est drôle, donc on rit beaucoup et en même temps on réfléchit justement à cette mécanique du rire et à ce jeu de pouvoir, de censure qui s'instaure entre le personnage de Madame Route de Rambouillet et le personnage de Molière. En fait cette scène c'est un peu à malin et demi quoi, c'est un petit peu ça, personne n'est dupe totalement de celui qui est en face.
Et non, et c'est surtout très très important que ça lui plaise à cette Madame de Rambouillet, parce que il en va de la survie, toujours pareil, de cette troupe, parce que en fait, ce qu'on pourrait, on avait fait le parallèle avec les influenceuses actuelles qui peuvent faire de la pub pour un truc et pour que ça marche ou pas. Et ben voilà, elle a cette influence, elle a oui, ce pouvoir-là.
C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Exactement.
Quoi, c'est un peu ça,
hein. Exactement. Et donc on n'a pas trop envie de s'amuser avec ça. Alors on en joue, mais tout en étant très prudent quand même. Ça, juste, ça a ses limites de jouer avec le feu.
Et on peut faire le parallèle justement avec Bulgakov, Louise Vigneault, parce qu'on a un peu l'impression parfois que finalement, aussi bien Bulgakov que Molière ont toujours oscillé entre la défense de la liberté, le refus de la censure et la soumission au pouvoir pour préserver l'avenir, parfois, pour des intérêts pécuniaires dans d'autres cas, avec parfois aussi la flatterie, quoi, le phénomène de courtisanerie, en particulier au XVIIe siècle. Il n'y a pas forcément d'affrontement frontal quoi, entre le censuré et la voix de la censure ou le messager de la censure.
Pas toujours. Je dirais que oui, c'est... En fait, c'est une question de survie, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire comment faire pour réussir à vivre. Et c'est ce que dit Mikhaïl Bulgakov à un moment donné. Il faut que je signe ce contrat, il faut que je travaille là pour exister en tant qu'auteur en URSS.
Exister. Mais à un moment, il pense partir à l'étranger.
Bien sûr, mais quand on ne peut plus partir, quand le... Voilà, en fait, ce qui est très intéressant pour les deux, c'est qu'ils ont eu l'amitié du pouvoir. Que ça soit Louis XIV avec Molière qui l'a protégé, ça a été quand même la troupe du roi, etc. Ou que ça soit Staline avec Bulgakov, puisque le coup de fil, enfin il y a un coup de téléphone de Staline à Bulgakov qui est réel.
Alors justement, on va écouter l'extrait, puisque bah voilà, vous nous tendez la perche. C'est le dernier extrait qu'on va caler tout de suite pour donc se mettre vraiment dans l'ambiance. C'est assez drôle, effectivement, quand le téléphone sonne.
Dites-moi, à quelle heure est la représentation ce soir ?
Il n'y en a pas !
Quoi ? Comment ça ?
Mais nous n'avons rien de prêt !
Mais alors qu'est-ce qu'on attend pour se mettre au travail ? Allez, allez-y !
Monsieur, l'autorité veut vous parler.
C'est le roi ?
Non, pas vous, monsieur de Molière. Monsieur Bulgakov.
Moi ? Allô ?
Mikhaïl Afanassievitch Bulgakov.
Oui, c'est moi.
Ici Staline.
Comment ? Qui ?
Ici Staline. Yossif Vissarionovitch. Ne me croyez pas. Vous devez penser qu'on vous fait une blague. Bon. Raccrochez et rappelez le Kremlin. Au 26 86 34. J'attends votre appel.
Micha, je vous souhaite vraiment que ça s'arrange pour vous en Moscovie. Portez-vous bien. C'est un tel honneur de pouvoir vous rencontrer, vous parler.
Écoutez, camarade, j'ai bien lu votre lettre. Je me ferai un plaisir de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour vous aider.
Alors, il est un petit peu dans ses petits souliers, Bulgakov, hein, on l'a compris. Alors, il y a plein de questions. Je trouve que cette scène-là, elle pose énormément de questions. D'abord, la voix de Staline, disons-le tout de suite, c'est celle de...
Éric Ruff,
donc l'administrateur général de la Comédie Française. Son rôle de composition, il n'a pas un pouvoir stalinien, Pierre-Louis Calixte, au sein de la Comédie Française. Hein. Bon, voilà,
c'est
petit clin d'œil intéressant.
Avec l'acteur aussi, voilà. C'est quand même Absolument. Un très très grand acteur. Et voilà, on avait eu l'envie de travailler ensemble, même dans cette distribution, ce qui n'est pas possible parce que c'est trop lourd. Et on s'était dit comme ça, il participera un peu au spectacle avec nous de cette manière-là.
Joli clin d'œil, en tout cas, effectivement, il y a plus qu'un clin d'œil, sans doute. Alors, ce coup de fil et cette fameuse lettre là, ils ont réellement existé.
Oui, c'est un coup de fil qui a vraiment existé et qui est retranscrit dans la biographie de Bulgakov. C'est sa femme qui l'a retranscrit. Enfin, et voilà. Et c'est un coup de fil qui a été très important non seulement pour Bulgakov, mais aussi pour beaucoup d'artistes en URSS, puisque d'un seul coup, Staline pouvait prendre son téléphone et appeler. Donc, il y avait ce rapport-là direct avec l'artiste. À partir du moment où on intègre ce rapport-là, l'artiste est en attente. Et c'est là que ça devient très pervers. C'est-à-dire que, évidemment, et Molière et Bulgakov ont eu un rapport protégé, mais étant protégés, ils ne pouvaient plus faire un pas de côté. Étant protégés, ils attendaient toujours la suite. Et voilà, c'est là que je crois que la relation est évidemment terriblement complexe, puisque c'est une relation de survie, une relation de pouvoir, une relation aussi d'admiration, je pense quand même réelle. Enfin voilà, il y a tout qui se mélange, mais...
Mais tout peut arriver, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de très pervers, comme vous le disiez.
C'est ça.
On n'est pas du tout dans la même relation entre Staline et Bulgakov, Nicolas Chupin, que dans la relation entre Louis XIV et Molière. Elle n'est pas du tout du même ordre, mais elle n'est pas forcément simple à gérer non plus. C'est Géraldine Martineau qui joue le personnage de Louis XIV sur la scène du Vieux Colombier.
Exactement, qui est formidable d'ailleurs, avec qui c'est un plaisir de jouer, encore une fois, comme avec tous.
C'est un jeune roi à ce moment-là, Louis XIV.
Oui, c'est comme un enfant, quoi. Qui dit je veux ça, je veux pas ça, comme un enfant. Et donc, pour le coup, alors oui, ils sont amis, mais enfin, malgré tout, il y a quand même, c'est le roi. Donc, il y a méfiance. Et puis, un coup oui, un coup non. Puis lui, il est lui-même chapeauté par, comme on a pu voir, l'Église,
qui
a son mot à dire là-dessus
voilà,
aussi.
L'Église, toujours incarnée
par
Thierry VI.
Exactement, qui a bien son mot à dire là-dessus et qui dirige un peu tout ça, finalement.
Oui. Voilà. Alors, effectivement,
Louis Idiot. Entre Louis XIV et Staline. Ce n'est pas du tout le même rapport.
Bien
voilà,
sûr.
C'est ça. Et ils ne sont pas comparés, je crois, dans ça serait vraiment... Ce serait pas juste.
Oui.
Voilà.
C'est pas le même rapport
aux arts, etc. C'est plus comprendre comment différentes sociétés s'organisent et dans le rapport aux gouvernants et comment ça fonctionne dans le rapport à l'artiste. C'est plus des interrogations, des mises en parallèle, mais pas des comparaisons.
Alors le personnage qui a signifié donc en plein milieu de la répétition de la troupe de Molière que le téléphone sonnait et que Bulgakov était demandé, ce personnage-là. C'est un personnage de valet que l'on retrouve, hein, finalement, c'est un peu le valet de Molière, que l'on retrouve agrémenté selon les besoins de la pièce et selon les époques. C'est un peu ça, Louise Vigneault, c'est le personnage qui est joué par Gilles David.
Oui, c'est ça. Alors, il est un peu différent. C'est Bouton chez Molière, qui est un peu, en effet, les valets de Molière, comme Sganarelle, voilà, et qui sont des valets
typiques de Molière.
Voilà, c'est ça, et qui sont très intéressants, puisque souvent, ils ont la voix du peuple, entre guillemets, en laquelle Molière croit beaucoup. Et notamment, dans une des scènes avec Louis XIV, il reprend la préface du Tartuffe pour défendre Molière. Voilà. Et puis après, il joue Bombardoff, qui est aussi un valet du théâtre d'art, en quelque sorte, un régisseur. Mais là, c'est différent. Et c'est encore une fois, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir des rapports de parallélisme, mais qu'ils ne soient pas toujours les mêmes. Et qu'au contraire, en fonction des époques, en fonction des sociétés, ça diffère. Et là, je dirais qu'il représente plutôt lui aussi dans un rapport de survie, quelqu'un qui obéit au modèle, qui le suit, qui y croit et puis qui fait ce qu'il a à faire. Parce que si on lui dit de brûler quelqu'un, eh ben, il faut le faire pour survivre à sa façon. Voilà. Et ça aussi, ça interroge dans le rapport de comment chacun se positionne dans une société entre l'artiste et entre ceux qui gouvernent.
Parce qu'on disait au début de l'émission, Pierre-Louis Calix, que c'est une pièce sur la création, c'est une pièce sur la liberté. Mais le mot qui revient peut-être le plus depuis le début de cet entretien, c'est le mot survie. C'est une pièce sur la survie que Le Crépuscule des singes.
Oui, absolument. C'est une pièce sur la survie. C'est comment y parvenir malgré tout, malgré tous les obstacles. Mais les obstacles, que ce soit juste survivre au sens propre du terme. Il faut savoir qu'à l'époque, quand même, lorsque Staline prend son coup de fil, les gens sont soit envoyés en camp. Mayakovsky vient de se tirer une balle dans le cœur. Donc c'est une époque vraiment où il y a une telle désespoir, une telle pression sur les artistes que soit ils se suppriment, soit ils partent encore, soit ils décident de survivre. Et c'est ce que fait Bulgakov dans un étau de plus en plus terrible. Avec en effet cette complexité du pouvoir qui fait que à la fois il est désirable, il exerce une certaine fascination. Donc oui, ce coup de fil de Staline va jouer comme une petite étoile dans la nuit pour Bulgakov. Il va espérer partir. Ce sera une autre étoile dans la nuit. Voilà, je crois que le rapport de Molière aussi. Et sur cet endroit-là, il y a toujours cet échange, je trouve, de séduction du pouvoir et en même temps de possibilité d'annihilation.
On est vraiment entre deux, effectivement. C'est vraiment une pièce entre chien et loup, une pièce sur une ligne de faille, en quelque sorte, en permanence, entre censure et liberté, entre création et volonté de survie en même temps. Et il y a aussi entre deux langues, puisque donc il y a la langue du XVIIe siècle, la langue de Molière, la langue de Bulgakov, et même une troisième langue, peut-être aussi, Louise Vigneault, la langue d'aujourd'hui, quoi, une langue contemporaine, qui permet aussi de faire comprendre aux spectateurs. Et de temps en temps, il y a clairement une volonté de la part des comédiens d'inclure aussi les spectateurs dans cette problématique. Donc comment est-ce que vous avez géré justement ces trois niveaux de langue dans le spectacle, parce qu'il y a effectivement des extraits des références à Don Juan, je crois, à Tartuffe, on parlait tout à l'heure des Précieuses Ridicules, en même temps l'œuvre de Bulgakov, et en même temps rendre cette pièce éminemment contemporaine, éminemment actuelle, parce que la question, on le disait tout à l'heure, se pose aussi de nos jours.
Je dirais que ça a été la première ligne, c'est-à-dire l'écriture contemporaine de la pièce. C'est ce qui était le plus important, c'est-à-dire, et puis je crois aussi dans une volonté élitaire pour tous, mais pas élitiste, c'est-à-dire d'arriver à raconter une histoire. Évidemment, si on connaît Bulgakov, si on connaît Molière, c'est formidable. Mais j'espère et j'aimerais...
Alors, beaucoup de gens connaissent Molière, Bulgakov, c'est
voilà,
moins
c'est
sûr.
Voilà, c'est ça, que quand on les connaît, si on les connaît moins, que cette pièce puisse raconter quand même quelque chose. Et ça a été vraiment, je pense, une ligne directrice dans le travail et dans l'écriture, d'écrire une histoire. D'écrire l'histoire d'un homme désespéré qui va retrouver de l'espoir en rencontrant un autre qui a fait la même chose et ce dialogue-là. Et voilà, je crois qu'en fait, au fond, c'est cette histoire contemporaine qui nous importait. Après, on a joué, parce que c'est du théâtre, parce qu'il y a cette possibilité-là et on a joué avec les autres langues.
Voilà, et dans le théâtre, il y a les mots, évidemment, il y a le jeu des comédiens, puis il y a aussi les images. Un mot pour terminer d'une des scènes qui visuellement frappe peut-être le plus, c'est lorsque du plafond du théâtre d'art de Moscou descendent des portraits de toute une série de personnalités avec des vides. Puisque certains visages ont été retirés, un peu comme sur les photos caviardées par la censure russe qu'on a l'habitude de connaître. Comment est-ce que vous avez choisi les visages des différents portraits?
C'est une bonne question. On voulait que ça soit à peu près contemporain de Bulgakov. Enfin, je veux dire, à un moment, on a hésité à mettre Pasolini dedans, mais on l'a enlevé. Parce que justement, il y avait un rapport, pour le coup, là, trop anachronique et qui emmenait trop loin dans ce jeu-là. Par contre, il y a Kafka, il y a des figures comme Prokofiev, comme Tchekhov, comme Meyerhold, il y a Mozart aussi, puisque Mozart, ça a été une clé dans l'écriture, justement, dans son rapport au pouvoir. Voilà, on a essayé de chercher un peu comme ça des figures stellaire, je dirais, de ce rapport à la liberté et à la difficulté d'être.
Encore une question, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs se la posent cette question depuis le début de l'émission. Le titre de la pièce, tout simplement, le crépuscule des singes. Alors là, il faut quand même... Enfin, c'est très mystérieux, pour le coup. Bon, alors, je vous pose la question, parce que je pense qu'il faut quand même l'expliquer, Louise Vigneux. D'où ça vient, ce crépuscule des singes?
Déjà de la volonté de rendre compte d'une rêverie. La pièce, on l'a pensée comme quelque chose d'un peu fantastique, comme un rêve, comme une rêverie baroque. Et il était important pour nous que le titre rende compte de ça, c'est-à-dire n'aille pas dans quelque chose d'historique ou je ne sais pas, c'est Molière, la rencontre de Molière et Boulekov. Mmh. Fallait ouvrir la porte au rêve.
Ça intrigue,
voilà,
c'est clair.
C'est ça. Et puis ensuite, c'est très très simple. D'une part, c'est un crépuscule. Et c'est l'histoire de deux crépuscules et d'une rencontre dans un crépuscule. Alors, est-ce que le crépuscule peut porter à la renaissance? Voilà. Mais en tout cas, c'est des fins de vie. Et puis, les singes, il y a plusieurs choses. D'une part, c'était le blason de la maison de Molière, la maison aux singes, là où il est né. Et c'était le blason de Molière. Il a gardé les singes toute sa vie. D'autre part, la figure du singe est une figure... l'artiste, c'est très souvent comparé au singe. Ça vient de la religion chrétienne où le singe tenait le miroir face à l'homme pour qu'il se reconnaisse. Et ensuite, l'artiste s'est représenté beaucoup en singe. Et puis ensuite, il y a quand même le fait que souvent, l'homme de théâtre est comparé à un singe par les pouvoirs et de façon pas toujours très sympathique. Et voilà, il y avait beaucoup de raisons à ce titre.
Eh bien, merci beaucoup à nos trois singes, donc Louise Vigneux, Pierre-Luc Calixte et Nicolas. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Merci encore à tous les trois. Je précise donc que ce spectacle intitulé Le Crépuscule des singes est à découvrir à Paris au Théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 10 juillet. Merci beaucoup. Testament de Taras Shevchenko, mise en musique par Nikolai Ozachi dans VMDN sur RFI. Taras Shevchenko qui est à l'Ukraine, ce que Victor Hugo est à la France, une figure de la littérature et de l'opposition politique au 19e siècle, mais pas seulement. Le poète, peintre et linguiste est aussi un modèle incroyable de résistance pour tous les Ukrainiens. Né esclave, son œuvre résonne d'ailleurs plus que jamais dans le conflit actuel. Notre âme ne peut pas mourir. L'un de ses plus beaux textes vient d'être réédité aux éditions Segers en France, une anthologie pour découvrir le parcours et le combat de ce surdoué. Amélie Beaucourt.
Que je vive en Ukraine ou non, après tout, ça m'est bien égal. Que l'on se souvienne de moi, que l'on oublie mon existence, moi dans la neige à l'étranger, après tout, ça m'est bien égal.
Entre les bombardements qui ravagent l'Ukraine depuis de longs mois, les mots d'un homme mort 2 siècles plus tôt viennent réconforter les habitants.
J'ai grandi dans la servitude et c'était chez des étrangers. En esclavage, je mourrais sans voir les larmes de mes proches. De ma vie ne restera pas la moindre trace, pas de signe dans notre valeureuse Ukraine dont la terre n'est pas à nous.
Le poète Taras Chevtchenko a vécu sous le joug de la domination du tsar de Russie et encore aujourd'hui, ses textes ont une résonance toute particulière. Anne Dieuzard, directrice des éditions Segers.
C'est quelqu'un qui naît dans une famille désargentée, de serfs. Ce sont des gens qui offrent leur force de travail à un propriétaire foncier. Ils n'ont absolument aucun moyen. Et cet enfant, qui va se retrouver assez rapidement dans la demeure de son maître, qui s'appelle Engelhardt, va apprendre déjà un nombre incroyable de langues. Très rapidement, il va montrer des dispositions assez incroyables aussi pour le dessin. Et qui sera repéré lui-même par des très grands académiciens des Beaux-Arts. Et qui vont le faire rentrer aux Beaux-Arts. Et pour ça, qui vont payer à Engelhardt le prix de son servage et donc le libérer.
Ses dons auraient pu lui permettre de s'embourgeoiser rapidement après sa libération, mais Taras Chevtchenko refuse de se soumettre à ce système injuste qui gangrène la société. Il reste fidèlement révolutionnaire et sera d'ailleurs récupéré par l'idéologie soviétique de l'URSS comme modèle d'homme insoumis. Lorsqu'il décède à Saint-Pétersbourg en 1861, son œuvre est mise à l'index par le pouvoir tsariste.
Il meurt à 47 ans. Imaginez qu'à 47 ans, il n'aura vécu que 9 ans libre, puisqu'il aura été déporté et il aura vécu toute son enfance, toute son adolescence en servage. Et là, pendant des années, il y aura quand même une garde pour veiller sur son tombeau, pour que ça ne soit pas un endroit qui puisse faire naître une résistance. Il y a eu des mouvements de masse, des mouvements de foule au moment de sa mort. Donc c'était une star politique qui s'était complètement donnée à son peuple et à sa cause.
Un texte publié pour la première fois en 1964 à l'initiative de l'UNESCO qui souhaitait faire connaître les poètes européens. Mais comme le rappelle André Markovitch, célèbre traducteur et linguiste russophone qui signe l'avant-propos de cette nouvelle édition, la littérature ukrainienne est largement inconnue. Taras Chevtchenko est bien l'exception qui confirme la règle.
C'est l'auteur le plus célèbre ukrainien. De fait, il y a très très peu de traductions de la littérature ukrainienne, de la poésie ukrainienne. Et Taras Chevtchenko, il est aussi connu parce qu'en Russie, il a été un des seuls auteurs ukrainiens à être en odeur de sainteté au XXe siècle, après la Révolution. Non, c'est simplement une espèce de témoin d'une tragédie qui continue.
Mais cela ne m'est pas égal que par des hommes faux, méchants, notre Ukraine soit endormie et qu'après l'avoir dépouillée, ils la réveillent par le feu. Non, cela ne m'est pas égal.
Les éditions Segers sont travaillées main dans la main avec l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine pour que les bénéfices de la vente soient directement versés aux équipes mobilisées sur le terrain.
Amélie Beaucourt pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec une émission spéciale au Salon artistique Révélation au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars à Paris. On est à l'ombre de la Tour Eiffel. Un salon artistique qui met en valeur les métiers d'art de tous les continents avec l'Afrique particulièrement à l'honneur cette année. À demain donc et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.